Musiques envoûtantes, couleurs chatoyantes, danses enivrantes. Action, émotion, fascination. Nous sommes en partance pour l'Inde. Nous la découvrirons à travers l'histoire de l'un de ses cinémas, un cinéma en hindi qui est né à Bombay, qui s'est inspiré d'Hollywood. Un cinéma qui produit 1500 longs métrages par an et qui s'exporte aujourd'hui aux quatre coins du monde. Plongeons dans l'univers de Bollywood. Julien Rousseau, l'un des deux commissaires de cette exposition, intitulée « Bollywood, Superstar, histoire d'un cinéma indien », qui se tient actuellement au musée du Quai Branly, et ce jusqu'au 14 janvier 2024. Julien Rousseau, donc, a souhaité que cette exposition se déroule comme un récit. Au fil du parcours, nous pouvons visionner 3 heures d'extraits de films, chaque fois mise en regard avec des œuvres d'art, des miniatures, des sculptures, du mobilier, des costumes, des affiches. Autant d'objets qui nous montrent à quel point Bollywood s'inscrit dans une longue tradition. Autant de clés qui nous rendent ce cinéma plus accessible. La scénographie est une véritable mise en scène. Elle se veut totalement immersive, entraînante, captivante. C'est un défi d'essayer de partager tout cela avec vous. Je vais le tenter. Allons-y. Évadons. Nous entrons maintenant dans un univers théâtral où le rouge est omniprésent. C'est un rouge extrêmement chaleureux qui peut nous faire penser au fort rouge de New Delhi, aux pierres du nord de l'Inde, mais aussi à la peinture indienne. Il est fort en émotion et résonne dans tous les médias. Dans la première partie de cette exposition, nous découvrons les racines du cinéma indien dans les arts populaires. Alors j'ai beaucoup aimé observer les « outils » entre guillemets des conteurs itinérants. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui. En Inde, on adore les histoires. Les premiers objets que je voudrais évoquer avec vous, ce sont de longs rouleaux illustrés que le conteur déploie au fil de sa narration. Les sujets sont extrêmement variés. Nous avons par exemple devant nous la construction du métro de Calcutta, le tsunami de 2017, ou encore le Ramayana. Le mot Ramayana signifie la geste de Rama. Nous ne pouvons pas ne pas l'évoquer. Il s'agit d'un récit d'au moins 24 000 vers, véritable joyau de la littérature indienne antique. Composé en sanskrit à une date encore inconnue, entre le 3e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère, est traditionnellement attribué à l'ermite légendaire Valmiki. Ce Ramayana est l'un des textes fondamentaux de l'hindouisme. En Inde, tout le monde connaît dans tous les détails les épisodes de la vie de Rama qui font l'objet de narrations qui durent parfois jusqu'au bout de la nuit, pour se finir lorsque la lumière revient. Ces narrations chantées sont parfois dansées. En effet, il n'est pas rare que le conteur soit accompagné d'une femme qui danse au fil de son discours. Elle peut, dans certains cas, pointer avec son coude l'image à regarder sur le support de la narration, d'où les gestes que l'on voit aujourd'hui encore dans les films Bollywood, ces gestes de coude. Mais avec ses mains, elle fait également des gestes codifiés, symboliques, des mudras, qui viennent exprimer un sentiment ou une situation déterminée et qui complète, qui amplifie le discours du conteur. Alors, cette épopée, le Ramayana, raconte les épisodes de la vie du jeune prince Rama. Rama a la peau bleue car il est divin. Il est en fait une descente d'un dieu sur terre, une de ses incarnations. Il est l'un des avatars de Vishnu. Vishnu étant lui-même l'un des trois principaux dieux de la religion hindouiste. Alors l'histoire de Rama, elle nous est contée sur l'un des rouleaux que nous avons évoqués, mais elle est également merveilleusement illustrée ici, dans un petit autel portatif de 33 cm de haut, provenant du Rajasthan, datant du milieu du XIXe siècle. Il s'agit d'une petite boîte en bois peint, rouge. Et lorsque nous l'ouvrons, lorsque nous déplions ces portes à deux battants, nous découvrons en son cœur trois petites statuettes de personnages. Au centre, Rama à la peau bleue, encadré par sa femme Sita et son frère Lakshmana. Sur les vantaux de ces portes, une multitude de scénettes racontent les différents moments de l'intrigue. Ces dessins, ces représentations figurent le combat de Rama qui, aidé d'Hanuman dieu singe, tente de libérer sa femme Sita, emprisonnée à Lanka par le terrible démon à 10 têtes, Ravana. Nous quittons ce très bel objet qui témoigne de la place de l'image dans la narration pour poursuivre notre déambulation et découvrir à nouveau la princesse Sita et le dieu singe Hanuman. Cette fois, ils sont devenus de grandes figures en cuir du théâtre d'ombre, destinées à être rétro-éclairées pour illustrer encore une fois ce récit épique. Au fil de notre flânerie, nous passons également à côté de machines qui donnent à voir des images, comme le bioscope, encore populaire aujourd'hui, ou la lanterne magique, dont nous pouvons manipuler une réédition réalisée pour l'exposition. Ce parcours rapide au sein des premières œuvres exposées nous apprend donc que l'image est support de la narration du conteur, qu'elle est omniprésente dans les arts populaires, dans les arts de rue en Inde. Il faut ajouter que tous ces spectacles, qui mettent en scène le combat salvateur des dieux contre les démons, présente un pouvoir bénéfique. Ils ont donc un succès assuré. C'est dans ce contexte que le cinéma indien se développe. Alors il se développe très vite puisqu'il se développe moins d'un an après les projections des Frères Lumière à Paris. En effet, dès le 7 juillet 1896, le Chalachitra, le cinéma, arrive à Bombay et s'impose. En ce qui nous concerne, nous allons nous arrêter en 1919 pour regarder un extrait d'un film muet, un film en noir et blanc, un court-métrage de 49 minutes intitulé « Kaliya Mardan ». Le film a été sauvé dans son intégralité, ce qui est extrêmement rare puisque c'est le cas pour seulement 1% des films muets. Il a été sauvé grâce à l'archiviste Paramesh Krishnan Nair. Il est aujourd'hui visible dans sa version intégrale sur YouTube. Je vous communiquerai le lien en bio. Comme l'indique l'une de ses premières images, il fut composé, dirigé et produit par un même homme qui se qualifie lui-même comme Monsieur D.G. Phalke, The Pioneer Cine Artist of the East, le pionnier cinéma artiste de l'Est. Phalke est considéré comme le père du cinéma indien. Sa façon de filmer, son humour, ses scènes, parfois gaguesques, ont pu être rapprochées de la manière de Charlie Chaplin. intéressons-nous un instant aux acteurs qui semblent avoir été choisis dans l'entourage de Falquet. En effet, le rôle principal est joué par sa fille, âgée de 7 ans, Mandakini. La talentueuse Mandakini, comme il la qualifie lui-même. Elle incarne Sri Krishna. Krishna est lui aussi un avatar, une des formes, une des métamorphoses du dieu Vishnu. Regardons un moment l'extrait. La musique est dramatique. La tension monte. Scène de pleurs des villageois. Une foule se lamente. Les femmes s'essuient leurs larmes avec leurs saris. Hommes, femmes, enfants affichent tous des expressions de douleur et de désespoir. Soudain, sur un fond noir, on voit Krishna, incarné par Mandakini, s'accrocher à la tête d'un cobra monumental. L'enfant déploie une énergie féroce pour ne pas se faire éjecter de la monture, tandis que l'on voit s'agiter derrière lui une partie du corps du serpent, du naga à 5 têtes. Nouvelle scène de pleurs des villageois. Le corps de Krishna est maintenant enlacé par la queue du cobra. L'enfant se débat avec force et véhémence. Il s'extirpe des anneaux du monstre. Il parvient à se libérer. Il est maintenant debout sur la tête du cobra. Il le guide avec des rênes comme un aurige, se servant de la queue de l'animal comme d'un fouet. Stupeur des villageois. Ils ouvrent grand la bouche. Ils sont béats d'admiration. Krishna, juché sur sa monture, apparaît maintenant à la surface de l'eau, au milieu de la rivière, debout sur les 5 têtes du serpent. Comme par magie, 2 personnages apparaissent de part et d'autre du jeune héros. Une femme à gauche lui tend un collier et un homme à droite lui présente un petit plateau chargé d'offrandes. Ces personnages sont en surimpression, ce qui peut nous faire penser aux trucages et effets spéciaux de Georges Méliès. Krishna fait des signes de la main à ses adorateurs, on entend le son de la flûte, flûte et percussion jouent l'allégresse, la musique rythme la narration. Scène de liesse des villageois. Ils applaudissent, s'approchent de la berge. Nous les voyons maintenant de dos. Ils tendent les bras vers la rivière. Ils se saisissent de l'enfant. Krishna passe de bras en bras. Une femme l'embrasse éperdument. Un homme danse avec Krishna sur ses épaules. Tous les villageois se mettent à danser. Nous venons d'assister à la victoire de Krishna sur Kaliya, roi serpent à 5 têtes, qui réside dans la rivière Yamuna. Ce naga Kaliya empoisonnait l'eau de la rivière, rendant la vie impossible aux villageois. Après ce terrible combat, Kaliya reconnaît la supériorité de Krishna et promet de ne plus déranger. L'ordre est rétabli. Krishna décide de lui pardonner. Cet épisode est raconté au chapitre 16 du 10e chant du Bhagavata Purana. Texte ancien, lui aussi rédigé en sanskrit, considéré comme un livre sacré par les Vishnouites. Maintenant que vous savez un peu mieux de quoi il retourne, je voudrais partager avec vous une petite anecdote concernant son auteur-producteur, Dada Saheb Phalke. On raconte qu'il regardait un film français sur la vie et la passion de Jésus-Christ quand il aurait eu l'idée de faire ce film. Il aurait dit « S'ils peuvent faire ça avec leur seul et unique Dieu, nous, nous avons des milliers de dieux. On a donc des milliers d'histoires à raconter. » Parmi ces milliers de dieux, Krishna est particulièrement populaire. Il partage la vie des humbles paysans. Son culte n'exige pas de riches offrandes. Il se satisfait de danses et de chants. Il peut être représenté sous l'aspect d'un enfant facétieux, comme ici. Il est le premier héros du cinéma indien. Il est l'une des premières stars. Dans ce court-métrage, la divinité est là devant nous. Elle bouge, elle est honorée par les acteurs, mais aussi par le public lui-même, car au cinéma en Inde, le public vit le film. Il exprime ses émotions, il agit, réagit, interagit. Le public regarde la divinité et la divinité regarde les spectateurs. Ça aussi, c'est très important, car ça montre que le cinéma participe au darshan. Qu'est-ce que c'est que le darshan ? Le darshan, c'est un concept fondamental dans l'art indien. Le fidèle peut voir l'image sacrée et en retour, il peut être vu par la divinité. Il y a une réciprocité du regard qui permet au spectateur de l'œuvre de bénéficier de la protection et de la magie de l'image. Eh bien, ce darshan, c'est aussi ce qui fera que l'acteur, dans les films indiens, a le regard face caméra, contrairement à ce qui se passe souvent dans les films occidentaux. Le spectateur regarde l'acteur regarde le spectateur, il y a toujours cette réciprocité du regard. Ici, en l'occurrence, dans le film de Falke, le spectateur regarde Krishna, Krishna regarde le spectateur, il y a réciprocité du regard, il y a darshan, il y a un lien bénéfique qui s'instaure entre l'image cinématographique et le spectateur. Je vous propose maintenant de quitter l'écran pour admirer ce que les commissaires d'exposition ont choisi de mettre en regard de cet extrait de film. En effet, c'est toujours passionnant de voir comment les objets, les œuvres se répondent. Nous avons à notre gauche une statuette de Krishna provenant du Rajasthan, datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Et cette statuette nous montre en fait que Dada Saheb Phalke a repris dans son film la gestuelle traditionnelle inscrite dans les arts de l'Inde. En effet, sa fille, la jeune actrice Mandakini, qui donc incarne le dieu Krishna, tient sa flûte dans le film exactement de la même façon que le personnage sculpté. Et puis, si nous avançons un petit peu plus loin, il y a ce mur, ce corner, dédié à l'artiste Ravi Varma. Nous sommes maintenant confrontés à une foisonnante galerie de portraits. Certaines de ses œuvres sont des huiles sur toile et d'autres sont des chromolithographies. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de Ravi Varma ? Eh bien, tout d'abord parce que le réalisateur Falke, que nous venons d'évoquer, a travaillé 10 ans chez Ravi Varma avant de faire du cinéma. Ravi Varma a donc joué un rôle capital dans la vie du scénariste-réalisateur. Mais Ravi Varma, il a aussi joué un rôle capital à l'échelle de toute l'Inde et du cinéma dans son ensemble. En effet, Ravi Varma a réussi à envahir, à inonder l'Inde avec ses images. Comment a-t-il fait ça ? Ravi Varma, c'est un peintre du XIXe siècle qui étudie à la cour de Travancore, auprès de peintres européens. Il ne maîtrise donc pas seulement la miniature, mais il apprend la technique occidentale du clair-obscur et de la peinture à l'huile, qui était alors visible en Inde seulement chez les très très privilégiés. Ravi Varma, suite à cet apprentissage, décide de garder, d'adopter un style naturaliste dramatique et il présente les dieux indiens à l'occidental, notamment dans la façon dont ils nous regardent. Parallèlement, il est confronté à l'arrivée d'une nouvelle technique, la chromolithographie. Ce procédé arrive en Inde grâce à une entreprise allemande qui diffuse des images qui connaissent un engouement immédiat. Ces images ne semblent pas avoir beaucoup de lien avec le sujet dont on parle aujourd'hui, puisqu'il s'agit de paysages enneigés, de chalets suisses et de lacs italiens. En fait, Ravi Varma va s'en emparer, les utiliser, les réinterpréter, avec une approche de collage, dirions-nous aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Sur une de ces images, Krishna, que vous connaissez bien, joue maintenant de la flûte au bord d'un lac. Mais ce lac a des allures européennes. Le dieu Shiva, quant à lui, pose devant un paysage enneigé. Bref, la mythologie indienne vient habiter les paysages européens, deux mondes se rencontrent. Alors, comment cela est-il perçu ? Eh bien, dans un premier temps, il faut avouer que les images de Ravi Varma sont très mal accueillies, particulièrement par les intellectuels de son pays, qui œuvrent alors à développer une identité indienne éloignée des canons occidentaux, et britanniques notamment. Mais parallèlement, Ravi Varma connaît un succès fou auprès du peuple. D'ailleurs, Ravi Varma crée très vite sa propre imprimerie et publie des milliers d'images bon marché, appelées parfois images calendriers. Des images qu'on retrouve dans les publicités, dans les magazines, partout. Des images encore très appréciées aujourd'hui. Nous assistons avec lui à l'apparition du premier média de masse en Inde. Parfois, ces images sont même augmentées de perles, de morceaux de soie, de paillettes. Leurs cadres peuvent être ornés de fleurs fraîches. Que se passe-t-il ? Les divinités étaient jusqu'alors recluses dans les temples ou sur leurs façades et sortaient de façon exceptionnelle lors de cérémonies, de processions. Les divinités étaient également connues à travers la voie des conteurs itinérants. Mais là, tout d'un coup, elles deviennent accessibles, visibles de tous, et avec ces chromolithographies, elles entrent, elles intègrent les intérieurs, le quotidien de tout un chacun. Ces chromolithographies vont devenir le canon visuel des dieux, le nouveau canon visuel des dieux, et le cinéma vient en quelque sorte les animer. Ravi Varma touche tout le monde, tout le pays. Son iconographie nouvelle et dramatique se répand dans toute l'Inde. Elle est panindienne. Ce mot panindien n'est pas anodin, il est même capital. Donc, tout petit retour sur le contexte historique. L'Inde est alors un sous-continent morcelé, comme aujourd'hui encore d'ailleurs, avec des identités régionales très diverses. On y parle plus de 20 langues, on y pratique différentes religions, elles-mêmes divisées en écoles religieuses. Et parallèlement, l'Inde vit sous le joug de l'Empire britannique, et ce jusqu'en 1947. Alors, les artistes comme Ravi Varma, puis les cinéastes comme Phalke et ses successeurs, ont à cœur de trouver des sujets indiens fédérateurs. Et ces thèmes mythologiques sont un extrêmement bon moyen pour toucher toute la population. Ces héros, ces dieux, sont connus de tous, et bien sûr, ils vont toucher tous les spectateurs. C'est pourquoi, à la suite de Ravi Varma, dès 1900, l'essor de l'industrie du cinéma en Inde participe de la volonté de produire un phénomène de masse et de fédérer le pays en remontant aux racines de la civilisation indienne. Le cinéma se met à créer des images religieuses vivantes. Nous l'avons vu dans ce court-métrage de Phalke qui nous contait les épisodes de la vie de Krishna. Si vous voulez bien me suivre, nous allons maintenant aborder une autre facette du cinéma de Bollywood. Nous allons nous immerger dans l'univers des films historiques. Le cinéma indien a fait revivre et continue de faire revivre l'âge d'or de l'histoire indienne. Plongeons au temps de l'Empire moghol qui régna sur l'Inde entre 1526 et 1857. Nous arrivons dans une salle à l'ambiance feutrée. L'éclairage est tamisé. Un grand écran, sur notre droite, diffuse des extraits de différents films. Shiraz, datant de 1928, Mughal-e-Azam, de 1960, Jodha Akbar de 2008 et enfin Padma Avat de 2018. Il s'agit donc de films produits quasiment tout au long d'un siècle. Et pourtant, ils présentent de nombreux points communs. Tout d'abord, la musique leur donne un fort caractère dramatique. Ensuite, nous sommes intrigués, subjugués par l'opulence des palais, la magnificence des décors, l'omniprésence de l'or et de la lumière, le nombre et la beauté des acteurs, la richesse de leurs costumes brodés et de leurs bijoux, les scènes amoureuses extrêmement codifiées, mais d'une grande sensualité, et enfin, les danses envoûtantes et kaléidoscopiques. L'écoute de ces films ont dû être exorbitant. Je me suis renseignée pour Mughal et Azam, dont un extrait est présenté ici. Il aura fallu 10 ans de pré-production, 500 jours de tournage, des centaines de figurants, un budget avoisinant 15 millions de roupies, soit 335 000 dollars, une somme faramineuse pour l'époque, nous sommes en 1960. Mais c'est un blockbuster, dirions-nous aujourd'hui. Ça a fonctionné. Le film a eu un immense succès au box-office. Il est resté le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pendant plus de 15 ans. D'ailleurs, pour des raisons de coût, ce film ne comportait à l'origine que 2 scènes en couleur et tout le reste était en noir et blanc. Et 40 ans plus tard, ce film a été remasterisé en 2004. Il a été recolorisé et là encore, il a eu un immense succès en salle. Ce film met en scène le conflit entre le roi Akbar et son fils. Tout évoque la splendeur de l'Empire moghol. Tout est grandiose. Et justement, l'espace d'exposition autour de nous est là pour nous donner des clés de lecture, encore une fois. Au mur et dans 2 immenses vitrines sont mises en scène les splendeurs des cours moghols et rajpoutes. Les Rajpoutes, ce sont des petits royaumes du nord de l'Inde, du Rajasthan principalement, qui sont apparus au 7e siècle et qui ont coexisté avec l'Empire moghol, puisqu'ils ont perduré jusqu'au début du 20e siècle. Nous pouvons donc admirer différents objets dans les vitrines et notamment des panneaux architecturaux ajourés. Ce sont des écrans de pierre sculptés en grès rouge provenant de la région d'Agra, datant de 1630-1650, conservé au Louvre d'Abu Dhabi. Ce sont des jalis, de véritables dentelles de pierre. Ici, des formes géométriques complexes viennent dessiner à l'intérieur d'un rectangle la forme d'une fenêtre polylobée. Chacune de ces formes, qui s'interpénètrent et semblent se répéter à l'infini, viennent enserrer des motifs végétaux. Feuilles et fleurs, sculptées dans la pierre, tracent des entrelacs entre lesquels air et lumière pénètrent l'édifice, préservant ainsi une certaine fraîcheur. C'est aussi à travers ces écrans, où courbes et volutes ont la part belle, que nous pouvons apercevoir les jardins ou les cours du palais. Pour les femmes, recluses dans leurs appartements, dans les zénanas, ces jalis étaient d'ailleurs le moyen de voir sans être vues. De nombreux autres objets témoignent de l'importance des conquêtes et des relations commerciales de la dynastie moghole. Pour n'en citer que quelques-uns, costumes historiques somptueux, poignard d'apparat à tête de cheval avec incrustation de pierres précieuses, boîte de forme ovoïde datant du XVIIe siècle en cristal de roche, argent, or, rubis, émeraude, et enfin d'extraordinaires pendentifs de nez qui devaient parfois être fixés avec une chaîne à la coiffure de la jeune femme qui les portait, tellement ils étaient lourds. Les Moghols étaient maîtres notamment dans l'art de la taille du jade et dans celui de l'incrustation des pierres précieuses, à l'aide de feuilles d'or extrêmement pures et fines. Tous ces objets autour de nous sont donc d'un luxe, d'un raffinement, d'une préciosité sans égale. Et c'est tout cela que nous retrouvons dans les extraits de films évoqués il y a un instant. Alors, la période moghole a été le sujet d'une quarantaine de films entre les années 1920 et aujourd'hui. C'est un sujet qui revient donc extrêmement fréquemment. Pourquoi le cinéma a-t-il choisi de mettre en scène cette époque de l'histoire de l'Inde ? Nous l'avons compris, c'était une période extrêmement faste. Mais c'était aussi une période marquée par la domination des envahisseurs moghols. Or, les Moghols sont un peuple de religion musulmane venu des steppes d'Asie centrale, de l'Ouzbékistan actuel. On peut donc se poser cette question, pourquoi, dans un pays majoritairement hindou, affiche-t-on un tel enthousiasme pour cette période ? Cela peut paraître paradoxal. En fait, cette époque de l'histoire fut marquée par le règne de souverains réputés pour leur justice légendaire et leur tolérance religieuse. Il y a donc peut-être ce message en filigrane : le respect de toutes les religions assurera à l'Inde un futur glorieux. Ces films sont l'occasion pour le réalisateur de mettre en avant les valeurs de coopération et d'amitié entre les communautés. Ainsi, l'empereur moghol, donc musulman, Akbar, marié à une princesse rajpoute, donc hindoue, Jodhabai, prend part à des rites hindous et s'entoure de ministres rajpoutes. Dans un contexte où le cinéma a un rêve unitaire, présenter cette période perçue par les Indiens comme un âge d'or fait sens. Au cœur de cette magnificence spectaculaire, Bollywood met en valeur la justice des Moghols, la dignité, le courage, le respect des promesses tenues des Rajputs. La coexistence pacifique est au cœur du discours bollywoodien, selon Ophélie Viel. Mais attention, on ne peut cependant pas attribuer au cinéma Bollywood uniquement des velléités politiques, loin s'en faut. Certes, le film Mughal et Azam aborde des sujets comme le conflit entre amour et pouvoir, le déchirement du père entre sens du devoir et amour paternel, l'inviolabilité des différences sociales, et donc la question des castes, ou encore le statut des femmes qui demeurent inférieures, quelle que soit la noblesse de leur caractère. Mais dans ce film, comme dans la plupart des films bollywoodiens, le cœur de l'intrigue réside dans l'amour. Un amour qui s'exprime dans les envolées lyriques et dans les danses spectaculaires. La vraisemblance historique est souvent bafouée pour servir l'intrigue, le rêve, le fantasme, l'imaginaire. Vous pensez bien que dans la réalité, le jeune prince Salim, héritier du trône moghol, ne s'est pas rebellé contre son père Akbar uniquement pour les beaux yeux d'Anarkali, esclave et danseuse de cour dont il était tombé follement amoureux. En fait, cette histoire légendaire, attestée dès le XVIe siècle, mais sans fondement historique, émeut aux larmes un public familial. Nous y voilà. L'important, c'est l'émotion des spectateurs. Puisqu'on parle d'Anarkali, ce qui se traduit par fleur de grenade, puisqu'on parle d'héroïne, un petit mot sur elle. Le rôle de la danseuse Anarkali est tenu par Madhubala. Cette actrice a un jeu absolument extraordinaire. Avec un brio inégalé, elle personnifie l'amour. Elle joue tour à tour la femme soumise et fière, séductrice et généreuse. Elle a d'ailleurs été nominée pour ce film, Mughal et Azam, au Filmware Award for Best Actress, pour le rôle de la meilleure actrice. Madhubala est l'une des grandes stars de la scène bollywoodienne. Née en 1933, elle a tourné dans plus de 60 films tout au long de sa carrière, qui a duré une vingtaine d'années. Notre dernière expérience aujourd'hui sera plus qu'immersive puisque nous nous installerons devant un écran géant pour découvrir les superstars modernes du cinéma de Bollywood, auxquels les Indiens vouent un culte charismatique. Considérés comme des demi-dieux capables de nous émouvoir d'un geste, d'un mot, d'un regard. Cette dernière salle est en effet consacrée à une rétrospective qui nous donne à voir, décade par décade, des extraits de quelques-uns des plus grands films du cinéma Bollywood. Le choix n'a pas dû être facile. Parmi ces superstars, nous découvrons des actrices comme Madhuri Dixit, Zeynep Aman, Kajol, et des acteurs comme Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan et bien d'autres encore. Ces extraits nous permettent de finir notre flânerie sur une note épicée, puisqu'on dit du cinéma indien que c'est un cinéma masala. Le masala, c'est un mélange d'épices chaudes, cumin, poivre, clou de girofle, cardamone, cannelle, laurier. Toutes ces épices parlent à nos différents sens. Ils peuvent nous apporter astringence, fraîcheur, piquant. Eh bien, le cinéma, c'est pareil. Il doit toucher toutes les cordes sensibles du spectateur. Un même film doit pouvoir éveiller en nous peur, tristesse, joie, colère. Et ce, grâce à l'énergie de la danse, au décor somptueux, à la gravité des répliques et aux tensions dramatiques. Ces derniers extraits et cette visite dans son ensemble, assourdissante de lumière, de couleurs, de danse, d'émotions, vous aura, je l'espère, donné l'envie d'aller voir cette exposition et de regarder des films épicés de Bollywood. Ces films qui sont vus par des centaines de millions de spectateurs, diffusés à travers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays anglo-saxons, mais encore largement méconnus dans certaines parties du globe, et particulièrement chez nous en France. Bollywood est une des expressions du cinéma indien, un art foisonnant, multiple, marqué par le régionalisme, par des références culturelles, des aspirations et des esthétiques divergentes, mais aussi un art issu d'une culture séculaire, dont nous avons entrevu quelques clés aujourd'hui. Un art qui dépasse les clivages linguistiques, religieux, régionaux. Un art qui agit comme un révélateur identitaire et concourt à l'édification d'une conscience nationale. Grâce à ses héros et à ses superstars, le cinéma fédère et émerveille le public du sous-continent indien. Ce podcast « Un regard pour l'art » fut écrit, enregistré et monté par moi-même, Corinne Giron. Il est la trace orale de notre déambulation téléphonique du mois de novembre 2023 avec l'association « Un regard pour toi » qui soutient les déficients visuels. Pour nous accompagner, j'ai choisi la musique de Gili Charabi, dite aussi Charabina, une chanteuse, compositrice qui aime à mêler des influences variées et dont les notes envoûtantes et fascinantes vous auront, j'espère, invité à faire le voyage en Inde.